Bonsoir à tous. La moitié des cerises contaminées, près d'un tiers des fruits cultivés en Europe. On vous détaille l'étude qui montre qu'on est loin de ne plus trouver de pesticides dans ce qu'on met dans nos assiettes. 3 mois de guerre en Ukraine et des responsables parmi les plus durs, les plus proches de Vladimir Poutine reconnaissent que cela va durer, une guerre d'usure. L'actualité, c'est encore ces perquisitions aujourd'hui au cabinet de conseil privé McKinsey. Un rassemblement contre le maintien de Damien Abad au gouvernement. Les larmes de Joe Wilfried Tsonga à Roland-Garros. Sa carrière s'arrête. Il dit au revoir au tennis, son compagnon de toujours. Et puis un anniversaire sur tapis rouge. Le Festival de Cannes fête ses 75 ans avec une montée des marches un peu particulière ce soir. Et au téléphone sonne Fabienne.
Là, on va parler transport ce soir. Nous sommes dans les grands chantiers qui attendent ce deuxième quinquennat et ce grand ministère de l'écologie. Puisque ce sont les transports, vous le savez, qui contribuent le plus aux émissions nocives. Puisqu'il faut accélérer, faut-il interdire les véhicules à essence plus tôt ? Comment baisser drastiquement le prix des voitures électriques ? Mieux favoriser le transport en commun et l'autopartage ? Le chantier des transports dans le téléphone sonne avec vos appels au 01 45 24 7000.
France Inter. Les États européens sont censés y renoncer progressivement. Mais les années passent et le constat est bien là. Les pesticides gagnent du terrain. Près d'un tiers des fruits cultivés en Europe sont contaminés. L'alerte d'une étude inédite publiée aujourd'hui par l'ONG Pan-Europe. Bonsoir Célia Kiray.
Bonsoir Hélène.
On retrouve des pesticides considérés comme dangereux dans tout un tas de fruits aujourd'hui.
Oui, et ce sont des augmentations parfois spectaculaires. 30% des kiwis sont contaminés par ces pesticides. Il ne l'était quasiment pas en 2011. 40% des mûres, des framboises ou des fraises présentent désormais des résidus de ces substances toxiques. Et il s'agit bien de fruits produits en Europe. Cette présence de pesticides a augmenté de 50% pour les fruits entre 2011 et 2019 et près de 20% pour les légumes. Et la France est sur le podium. 22% des fruits produits dans l'Hexagone sont contaminés par les substances les plus dangereuses, selon cette ONG. Et les fruits les plus concernés sont d'ailleurs produits dans le bassin parisien et dans le sud-ouest de la France.
Alors comment comprendre ce constat alors que la Commission européenne veut les réduire ces pesticides ?
Oui, en principe, depuis 2011, les États membres doivent limiter l'utilisation des pesticides et remplacer les plus dangereux par d'autres substances, mais ils ne le font pas. Autre problème, selon Salomé Roanel, qui a réalisé ces milliers d'échantillons pour l'ONG Pan-Europe, les fruits et les légumes développent une résistance aux pesticides.
Pourquoi une augmentation de leur utilisation ? Ce sont des substances particulièrement toxiques et très efficaces, mais ce sont aussi des substances qui donc ont perdu de leur efficacité à mesure qu'elles ont été utilisées par un principe simple de résistance et qui a nécessité l'utilisation accrue de ces substances au fur et à mesure. L'augmentation, elle est liée à la résistance croissante et aux besoins de plus en plus importants de volume de ces substances pour compenser et obtenir les mêmes résultats.
Et donc il en faut toujours plus. Seule solution, le bio. Les ONG demandent une interdiction pure et simple des pesticides les plus dangereux avec un objectif zéro résidu en 2035. C'est une question de santé publique.
Le bio, vous en parliez, c'est Célia, et plus largement tous les produits alimentaires qui coûtent de plus en plus cher avec l'inflation qui ne cesse de grimper. Le panier risque de s'alourdir de plus de 200 euros cette année selon l'étude de l'assureur Crédit Alliance Trade aujourd'hui. Quant au prix de l'énergie, il incite les consommateurs à faire jouer la concurrence, à changer de fournisseur au risque de voir exploser les litiges. C'est bien ce que constate le médiateur de l'énergie aujourd'hui. Plus de 30 000 l'année dernière. C'est une hausse de 13% par rapport à 2020.
Et à 19h presque 4, Hélène, le maintien de Damien Abad au gouvernement est-il tenable ?
Accusé par deux femmes d'agression sexuelle et même de viol, ce qu'il conteste fermement, le nouveau ministre des Solidarités du gouvernement, confronté aux demandes de démission de plusieurs membres de l'opposition et à cet appel au rassemblement de l'Observatoire des violences sexistes et sexuelles en politique, l'association qui s'est créée dans la foulée du mouvement MeToo Politique il y a 3 mois. Rassemblement place Saint-Augustin à Paris ce soir, où vous vous trouvez, Yann Gallic ?
En effet, le gouvernement de la honte, c'est le slogan qui s'affiche en lettres majuscules sur l'une des pancartes brandies par les manifestantes rassemblées ici, avec des photos de Gérald Darmanin et Damien Abad barrés d'un trait rouge. Le nouveau ministre des Solidarités doit démissionner selon Alice Coffin, élue d'Europe Écologie au Conseil de Paris. Elle est aussi la cofondatrice de l'Observatoire des violences sexuelles en politique.
À minima, ce qu'on pouvait espérer, c'était qu'il soit mis à l'écart le temps de tirer tout ça au clair, puisque la Première ministre nous dit « je ne savais pas ». ce qui en soi peut être curieux, mais ça veut dire qu'il y a un problème. Ok, vous ne saviez pas, vous savez maintenant. Que faites-vous? Prenez le temps de vérifier, si vous voulez, toutes ces informations, etc. Et pendant ce temps-là, évidemment, mettez à l'écart Damien Abad. Ça, c'est le minimum, ouais.
Damien Abad, Gérald Darmanin, Éric Dupond-Moretti, les militantes féministes comme Assia s'en prennent à ces ministres qui salissent, dit-elle, l'image de ce gouvernement et de ce nouveau quinquennat qui a fait de la lutte contre les violences sexuelles et sexistes une priorité.
C'est totalement honteux dans un pays comme la France qu'on ne prenne pas en compte la parole des victimes. Il y a la présomption d'innocence, c'est la justice qui dira si ces personnes sont coupables ou non. Mais en parallèle, il y a également une question politique, une question de symbole. Là, le gouvernement, Macron, Elisabeth Borne, disent tout simplement « Parlez, mesdames ». Libérez votre parole, mais on ne la prendra pas en compte. C'est un mauvais signal qui est envoyé aux femmes.
Et selon l'Observatoire, à l'origine de ce rassemblement, tous les hommes politiques mis en cause dans des affaires de violences sexuelles ou sexistes devraient être mis systématiquement à l'écart en attendant que la justice fasse son travail.
Yann Gallic avec Clément Vuillet. Quant à l'ancien ministre de la Transition écologique, Nicolas Hulot, il a été entendu aujourd'hui par la Brigade de protection des mineurs de Paris. Enquête relancée après le reportage d'Envoyé spécial en novembre dernier, et le témoignage d'une femme qui l'accuse de viol quand elle était mineure et qui a depuis porté plainte. Dans l'enquête sur l'influence des cabinets de conseil privés au plus haut sommet de l'État, pointée par une commission d'enquête du Sénat il y a quelques mois, cette perquisition aujourd'hui, bonsoir Ariane Grissel.
Bonsoir.
Au siège français du cabinet McKinsey, contre lequel une enquête a été ouverte fin mars pour blanchiment aggravé de fraude fiscale aggravée.
Oui, elle a eu lieu à la mi-journée dans les locaux de la société américaine située sur les Champs-Élysées. Le parquet national financier cherche à vérifier avec cette enquête préliminaire si les entités françaises de McKinsey n'ont pas mis en place un montage qui leur aurait permis de faire sortir une grande partie de leur chiffre d'affaires de France, direction les États-Unis. Or, moins de chiffre d'affaires déclaré ici, ça veut dire moins, voire pas d'impôts sur les sociétés à payer dessus, puisque l'entreprise est soupçonnée de n'avoir rien versé entre 2011 et 2020. McKinsey conteste de son côté toute fraude fiscale. Le cabinet de conseil dit respecter les règles fiscales et sociale française et assure dans un communiqué avoir fourni toutes les informations demandées pendant la perquisition de ce midi. Des éléments qui vont maintenant être étudiés par les enquêteurs. Les investigations sont confiées au service d'enquête judiciaire des finances composé d'agents des douanes et des impôts, une entité qui dépend du ministère des Finances.
Ariane Grissel, cette fois c'est non. L'ancien ministre des Transports Jean-Baptiste Djebbari qui a déjà mis un pied dans le privé via son entrée annoncée au conseil d'administration d'un constructeur de voitures à hydrogène, ne pourra pas rejoindre le géant du secteur logistique CGA-CGM. La Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique juge cette reconversion incompatible avec l'obligation de prévention des conflits d'intérêts. À 2 semaines et demie du premier tour des élections législatives, celui qui se voit bientôt Premier ministre, Jean-Luc Mélenchon, ratisse le terrain. Aujourd'hui en Meurthe-et-Moselle, sur le thème de l'éducation, l'occasion d'attaquer le bilan de Jean-Michel Blanquer et les perspectives de son remplaçant. Reportage Laurence Perron.
L'enseignement supérieur technique, c'est le dada depuis toujours de Jean-Luc Mélenchon. Alors quand on l'emmène dans une usine du bâtiment qui œuvre sur Notre-Dame, quand de surcroît les apprentis lui demandent des autographes, il est aux anges.
Non, l'autre pardon, côté, monsieur, pas, je vous aime. Non, mais je vous aime.
Vous pouvez signer ma coque, s'il vous plaît?
Non, ah, la coque, oui.
Ah, ouais, oui, ah, je veux bien.
S'il vous plaît.
Mais franchement, les gars, où vous en êtes, là?
Quand surtout le patron de l'entreprise familiale Lebras lui permet d'écorner le bilan d'Emmanuel Macron sur l'apprentissage.
Donc il faut que chaque pièce soit examinée. Monsieur Blanquer a fait exactement le contraire. Premièrement, il a raccourci d'un an le bac pro. Est-ce que quelqu'un lui a dit que si on avait mis 4 ans, c'est parce qu'on avait besoin de 4 ans. Et on a besoin qu'il passe 4 ans à apprendre. On a besoin de bacheliers professionnels, top niveau, pas de touristes. Alors je ne dis pas qu'aujourd'hui c'est des touristes, mais M. Blanquer, qui de sa vie ne s'est intéressé à un lycée professionnel, a tout saccagé. Donc il faudra que je recommence tout. Voilà, et on va le faire.
Quand cette visite lui permet de répondre au président de la République, fier du coup politique que constitue la nomination de l'intellectuel Papendaï au ministère de l'Éducation nationale.
M. Papendaï est un ministre de droite, ça, il a bien le droit, mais il ne sera pas ministre dans un gouvernement à nous, ça c'est clair.
Lui, Premier ministre, Papendaï retournera à ses travaux intellectuels, dit-il.
Reportage signé Laurence Perron. Et dans quelles circonscriptions les batailles vont-elles être les plus rudes? Les 100 circonscriptions à suivre, c'est un gros travail de la rédaction numérique de France Inter et c'est à lire sur franceinter.fr.
3 mois de guerre en Ukraine et elle va durer.
Alors que la Russie espérait submerger le pays en quelques jours ou quelques semaines, l'aide des pays occidentaux et l'immense résistance ukrainienne ont ralenti la progression russe. Aujourd'hui, elle concentre son offensive dans le sud-est. Et deux hauts responsables russes l'admettent, le conflit va durer. Sylvain Tronchet, bonsoir.
Bonsoir Hélène.
Notre correspondant en direct de Moscou. L'information est importante car ce sont vraiment deux proches de Vladimir Poutine qui le disent.
Ah oui, ces deux hommes qui parlent font partie non seulement des durs, mais aussi des influents, des plus influents du régime. Sergueï Shoigu, le ministre de la Défense, et Nikolaï Patrouchev, le secrétaire du Conseil de Sécurité. Shoigu, c'est l'ami personnel de Vladimir Poutine, celui avec qui il part en vacances. Patrouchev, c'est celui qui avait succédé à Vladimir Poutine à la tête du Service fédéral de sécurité, du FSB, donc il faut les écouter. Et ce que disent tous les deux, c'est qu'il faut s'attendre à ce que la guerre s'installe. Nous ne courons pas après les délais, dit Patrouchev. Les objectifs seront remplis. Il ne peut en être autrement, et Sergueï Shoigu ajoute, peu importe l'énorme aide occidentale au régime de Kiev et la pression sans précédent des sanctions. En fait, à Moscou, le pouvoir semble parier sur un certain essoufflement des occidentaux et de leur aide. L'idée est que plus le temps passe, plus la guerre dure, plus les difficultés s'accumulent, plus cela est favorable à la Russie qui pense, ou en tout cas affirme, que son économie peut résister aux sanctions, que sa population est plus résistante, plus résiliente ou en tout cas moins susceptible d'exprimer son insatisfaction que la population occidentale.
Sylvain Tronchet en direct de Moscou. Et en pleine guerre en Ukraine, la France a donc changé la tête de sa diplomatie. Catherine Colonna, nouvelle ministre des Affaires étrangères, qui a réservé son premier déplacement à l'Allemagne aujourd'hui. Une évidence, dit-elle, tant la relation franco-allemande est importante, pour insister aussi sur la nécessité d'adopter un embargo européen sur le pétrole.
5 paquets de sanctions ont déjà été adoptés. Il y a une discussion sur le 6e et nous souhaitons qu'il puisse être adopté rapidement. Il porte, vous le savez, sur la limitation de nos importations de Russie sur les matières énergétiques concernant les hydrocarbures, pas encore le gaz. Il faut aboutir d'ici le prochain Conseil européen et lever pour ça, ça n'est pas un secret, les quelques réticences qu'ont des pays qui sont enclavés, qui ont une difficulté objective, qui sont en train de regarder avec la Commission européenne comment techniquement il est possible de répondre à leurs difficultés. Néanmoins, il faut aller de l'avant. Nous avons des sanctions, nous avons un soutien à l'Ukraine qui prend toutes les formes humanitaires, économiques, financières, matérielles. C'est l'ensemble de ce dispositif qui peut nous permettre de faire changer la donne.
Catherine Colonna avec David Philippot. Un accord sur le pétrole loin d'être acquis. Le premier ministre hongrois le juge très improbable aujourd'hui. La présidente de la Commission européenne en doute aussi fortement. Le prochain Conseil européen est prévu la semaine prochaine. Et puis l'actualité à l'étranger, c'est aussi la Chine, où la haut commissaire aux droits de l'homme Michelle Bachelet est en visite aujourd'hui et qui fait l'objet d'une enquête inédite sur la base d'une fuite de milliers de documents chinois analysés par des chercheurs, publiés dans les médias internationaux, qui racontent la répression qui vise les Ouïghours au Xinjiang, cette région musulmane et turcophone à l'ouest du pays, dans ces camps d'internement présentés par Pékin comme des instituts de formation. Un procès hors norme, plaidoirie hors norme. C'est un exercice totalement inédit que se livrent les avocats des parties civiles depuis hier au procès des attentats du 13 novembre. Une plaidoirie collective, non pas chaque avocat pour ses seuls clients, mais ils seront 170 sur un peu plus de 300 à prendre la parole au nom de toutes les victimes, des plaidoiries thématisées. Hier, on a parlé radicalisation et aujourd'hui, bonsoir Charlotte Piret.
Bonsoir.
Les avocats s'arrêtent sur chaque lieu des attaques.
Le Stade de France, tout d'abord. Il est 20h40. Le coup d'envoi du match France-Allemagne va bientôt être donné, rappelle maître Didier Seban. Là où des centaines de personnes travaillent, agents de sécurité, serveurs, vendeurs d'écharpes, rappelle l'avocat de partie civile, premier touché, Emmanuel Diaz, qui avait fui la dictature de Salazar au Portugal, chauffeur de bus. Il est mort ce soir-là. Les plaidoiries suivantes nous emmènent sur les terrasses bondées, car tous ou presque l'ont rappelé, il faisait doux ce soir-là. Au restaurant Le Carillon, plaide maître Aurélie Soria, une dizaine de personnes célèbrent le départ de Mathilde pour Londres. Mais il y a aussi la table des internes de l'hôpital Saint-Louis, celle des étudiants en pharmacie, des architectes de Renzo Piano, de ce couple en tête-à-tête, des copains, des sœurs, des amis. David, Louise, Oda, Eva, Chloé, Ambre, Camille, Sarah, Thierry, Sébastien, Greg, du petit Cambodge à la belle équipe, du comptoir Voltaire au Bataclan. Les avocats de partie civile évoquent ceux qui ont été traumatisés, blessés, tués ce soir-là. Dernière seconde de vie avant les vitres qui volent en éclats, l'odeur de poudre et de sang qui monte au nez, les premières balles qui traversent les corps, plaide maître Sisson. Plaidoirie pour toutes ces victimes, selon maître Awatar, pour qui le temps s'est arrêté ce soir-là. Et ne reprendra peut-être pas.
Charlotte Piret en direct de la Cour d'assises spéciale de Paris avec Geoffrey Marianne. L'ancien patron du Louvre en garde à vue, Jean-Luc Martinez, ainsi que deux égyptologues entendus depuis hier, on l'apprend ce soir, pour leur rôle présumé dans la validation d'œuvres d'origine douteuse acquises par le Louvre à Abu Dhabi dans le cadre d'un partenariat avec le musée parisien. Information du Canard Enchaîné confirmée ce soir par France Inter.
Trois quarts de variole du singe sont désormais confirmés en France.
L'OMS minimise le risque de propagation. Pour autant, la Haute Autorité de Santé préconise une vaccination des cas contacts. La présidente de la commission technique vaccination à la HAS, Elisabeth Bouvet.
C'est ce qu'on appelle une vaccination réactive, c'est-à-dire que l'idée, c'est pas du tout de vacciner la population générale, mais c'est de vacciner les gens qui ont pu être exposés au virus avant qu'il ne développe la maladie pour en l'empêcher de diffuser. Donc ça suppose de connaître les personnes qui ont été en contact avec un cas. Et on a 4 jours pour les vacciner. C'est pas un virus qui se transmet très très facilement, donc il faut vraiment un contact intime avec un cas. Les professionnels qui auraient pu être en contact avec les patients, les examiner et justement les toucher, les examiner notamment au niveau des voies aériennes supérieures, sans mettre de protection, et puis les personnes qui peuvent être en contact, là aussi, sans se protéger, avec les draps ou les vêtements d'une personne en phase de maladie, en phase d'éruption.
Elisabeth Bouvet avec Hélène Chevalier, la variole du singe, maladie rare, originaire d'Afrique, un peu plus de 130 cas apparus ces derniers jours, principalement en Europe et en Amérique du Nord, une flambée assez inhabituelle, mais la maladie est bénigne dans la plupart des cas. La santé et cette manifestation annoncée le 7 juin prochain par 9 organisations de soignants et de personnel hospitalier, CGT en tête, pour réclamer des hausses de salaires et d'effectifs. Grève nationale aussi aujourd'hui chez Marionneau. Plus d'une centaine de salariés réunis devant le siège du distributeur de produits de beauté pour dénoncer, disent-ils, des salaires de misère. Seule une augmentation de 5 euros brut pour les salariés au SMIC a jusqu'ici été proposée par la direction. Allez, on file sur la Croisette à Cannes parce que c'est une journée très spéciale. C'est aujourd'hui que le festival fête vraiment son anniversaire, ses 75 ans. Delphine Evenou, bonsoir.
Bonsoir,
vous
Hélène.
Vous êtes postée au meilleur endroit, tout en haut du tapis rouge, et vous n'avez rien raté de cette montée des marches forcément un peu spéciale.
Oui, une montée des marches historique, hallucinante même, Hélène. Pas d'action particulière sur le tapis rouge, mais un défilé de pointures du 7e art incroyable. 14 palmés, les frères Dardenne, Christiane Mounjou, Kore-eda, Ruben Östlund, qui sont en compétition cette année. Wim Wenders, Julia Ducournau, Costa Gavras, Jacques Audiard, et puis Claude Lelouch, Catherine Corsini, Guillermo del Toro, Abderrahmane Sissako. Impossible de tous les citer, mais franchement, quel bonheur pour les amoureux du cinéma. Même la montée des marches ultra glamour de Tom Cruise la semaine dernière paraît aujourd'hui un petit peu terne. Une liste de prestige pour un anniversaire de prestige et la farouche volonté ici à Cannes, on le sent, d'oublier la période Covid, de regarder vers l'avenir, vers ses défis. Pour l'occasion, la toute nouvelle ministre de la Culture, Rima Abdul-Malak, a fait le déplacement, montée des marches au milieu de toutes ces légendes, accompagnée de 6 jeunes inscrits dans le dispositif Passe Culture. Tous sont désormais dans la salle du Grand Théâtre Lumière pour la projection de L'Innocent de Louis Garrel, film hors compétition. Ce soir, c'est la fête. Et puis tout à l'heure, tout le monde va filer pour un grand dîner, 700 invités, dont la ministre au marché de Fortville. C'est le seul lieu capable d'accueillir autant de monde. Ceux qui n'ont pas leur carte d'invitation pour cet événement paillette se consoleront en suivant demain encore le passionnant colloque sur l'avenir du cinéma, sa place face aux plateformes de streaming, avec là aussi du très beau monde pour converser.
Delphine est venue avec Florence Layani pour cette montée des marches hallucinante. Donc on a bien retenu. Il était l'heure des 4 mousquetaires français et il a fait ses adieux au tennis aujourd'hui. Joe Wilfried Tsonga, sorti au premier tour de Roland-Garros, mais ovationné, Fabrice Abgral y était, parce que cette défaite signe aussi évidemment la fin de sa carrière et qu'il y a eu énormément d'émotions sur le court.
Il a prolongé le plaisir durant 3h49, un plaisir gâché toutefois en fin de match par une blessure. Alors qu'il servait pour égaliser à 2-7 partout face à Casper Ruud, Joe Wilfried Tsonga, sur sa première balle de service, a ressenti une douleur à l'épaule droite, si violente et si grave qu'il ne pouvait plus défendre ses chances. Il est tout de même resté sur le court, mais pour faire de la figuration. Tsonga a été envahi alors par l'émotion, il s'est mis à pleurer en plein match, laissant sans résister le Norvégien s'imposer. Les spectateurs se sont alors levés comme un seul homme pour applaudir, pour ovationner Joe Wilfried Tsonga, ému, touché, bouleversé par tant d'affection. Puis il y a eu la cérémonie d'hommage au milieu du central, avec sa famille, tous ses entraîneurs et tous ses potes joueurs comme Gasquet, Monfils et Simon, ses copains de la génération dorée. Puis Joe Wilfried Tsonga a pris le micro.
J'étais pas préparé à recevoir tout cet amour et toutes ces attentes, mais je me suis battu. J'étais un jour suisse, un jour fils de père congolais, un jour manceau, un jour noir, un jour blanc, un jour sauveur, un jour héros national, un jour usurpateur, un jour décoré, un jour jeune, un jour vieux, un autre papa. Et j'espère que le monde s'apaisera comme je suis apaisé aujourd'hui. Merci Roland, merci Monsieur Tennis, je t'aime.
Les plus grands joueurs du monde ont tenu aussi à rendre hommage à Tsonga, Federer, Djokovic, Nadal et Murray ont laissé un message vidéo diffusé sur les écrans géants. Tsonga a quitté le court ensuite avec tous ses amis, avec le sentiment d'avoir réussi sa carrière.
Voilà, et un hommage assez inédit dans l'histoire de Roland-Garros pour Tsonga qui peut se targuer quand même d'être l'un des trois seuls joueurs à avoir battu Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic quand ils étaient numéro un mondiaux.
Voilà, il était sympa en plus. Moi aussi ça m'a fait de la peine, tiens, de le voir partir. Merci beaucoup Hélène Philippe, vous reviendrez demain, comme ça je n'aurai pas de peine. Absolument.